Lecture de l'Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 35 à 45. Et Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchent de lui en disant : Maître, nous voudrions que tu nous fasses ce que nous te demandons. Et il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Ils lui dirent : Accorde-nous que nous soyons assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Et Jésus leur dit : Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois ou être baptisé du baptême dont je suis baptisé ? Ils lui dirent : Nous le pouvons. Mais Jésus leur dit : Vous boirez la coupe que je bois et vous serez baptisés du baptême dont je suis baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de le donner. Mais cela est donné à ceux à qui cela a été préparé. Et les 10, ayant entendu cela, se mirent à s'irriter contre Jacques et Jean. Et Jésus, les ayant appelés à lui, leur dit : Vous savez que ceux dont on pense qu'ils gouvernent les nations les asservissent, et que les grands d'entre eux exercent sur elles leur puissance. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier d'entre vous sera l'esclave de tous. Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.
Une prédication particulière ce matin, excusez-moi, déjà avec le chat dans la gorge, car elle va correspondre en fait à un article signé par moi et publié cette semaine et sur le même extrait de la Bible dans l'hebdomadaire Réforme. Lequel article a été, je l'avoue, particulièrement rendu incompréhensible dans sa mise en page et ses caviardages. Ma première motivation aura donc été d'en sauver quelque chose, après que 10 heures de travail gratuit n'avaient pas été respectées. Mais la difficulté pour le reprendre dans une prédication est le style, et aussi la structure, car une écriture pour l'écrit n'est pas une écriture pour l'oral. Et c'est un mode de travail complètement différent. Mais voilà, puisque cet article avait déjà été écrit, l'exégèse déjà faite, je n'arrivais, je vous l'avoue, pas à le refaire complètement et artificiellement. Si bien qu'aujourd'hui, ce ne sera pas la forme usuelle, ni le même plan. Alors, je sais bien que ce genre de considérations semble des subtilités face aux lourds problèmes du monde et aussi ceux de nos existences. Mais pourquoi pas, pour une fois, partager les micro-drames d'un prédicateur lambda, mais aussi faire une sorte de teasing, en français, une mise en appétit pour notre nouveau cycle d'ateliers de prédication qui ouvrira ses portes numériques après les vacances de la Toussaint et déjà préparé l'étude des rapports conflictuels entre l'écrit et l'oral, les cultures de l'écrit et les cultures de l'oral, problématique particulièrement saillante dans nos Bibles, évidemment, bien sûr, mais aussi, par exemple, au cœur d'une campagne électorale où des expressions cinglantes commentent, retweetent des saillies vocales qui font reculer à chaque fois les limites de l'infamie. Jamais j'aurais pu ne pas faire cette introduction, mais hélas, elle vient d'être commise. Notre texte de ce dimanche, frères et sœurs, comme celui d'ailleurs du dimanche dernier, fait encore une fois partie des récits qui peuvent faire la joie d'un interprète. Parce qu'encore une fois, il est rempli non pas de choses trappes, mais de références semi-cachées. Donc, je vais en relever quelques-unes avant qu'on puisse s'attarder ensemble sur une piste à explorer un peu plus profondément, celle de la critique, non pas du fait, vous l'avez entendu, d'être grand ou le premier, ou d'être considéré comme tel, mais le fait, tout simplement, de vouloir l'être, grand ou le premier, vouloir l'être pour rien, c'est-à-dire pour soi. Et enfin, nous allons nous focaliser sur un mot, le mot « rançon », qui a été prononcé par la bouche de Claire à la fin de notre récit, le mot « rançon ». Cette thématique de la critique de vouloir être grand, ou le premier, ou le plus grand dans d'autres évangiles, se retrouve sous des formes diverses, effectivement, dans les quatre évangiles. Le plus semblable des parallèles du texte de ce matin se trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 20, mais dans Matthieu, il y a un personnage qui s'ajoute, qui s'invite, celui de la mère de Jacques et de Jean qui vient voir Jésus pour la même demande, à savoir que ses fils soient bien placés. Alors la mère des fils de Zébédée, je vous le lis dans Matthieu, s'approcha de lui, de Jésus, avec ses fils, qui sont adultes, je vous le rappelle, et se prosterna pour lui faire une demande. Ce qui, aujourd'hui, à nos yeux habitués, peut produire un effet comique. Franchement, un effet comique dont je ne sais ou pas s'il est anachronique. Quoique, finalement, il n'est peut-être pas si anachronique quand on voit que cette dame s'adresse à Jésus en lui disant « ordonne », ce qui va décupler le comique éventuel, puisque ce faisant, elle se permet elle-même de faire quoi ? De donner un ordre à Jésus. Il lui dit « que veux-tu ?» à cette femme. « Ordonne », lui dit-elle, « que mes deux fils, que voici, s'assoient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Ça, c'était pour Matthieu. Et l'évangile de Luc, au chapitre 22, reprend le même thème et parle à propos des disciples d'une émulation. La question qu'on peut se poser dans Luc, c'est « s'agit-il d'une saine émulation et l'émulation entre disciples est-elle saine ?» Et Luc, en revanche, là c'est sûr, ironise aussi sur les ainsi appelés bienfaiteurs que seraient ceux qui assujettissent les nations, je vous lis, « les rois des nations les dominent en seigneurs et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. » Au chapitre 13 de l'évangile selon Jean, on va retrouver encore une fois le même thème, mais dans un contexte différent. Le geste, cette fois, ou devrait-on dire le sacrement potentiel du lavement des pieds. Je vous lis dans Jean, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » Et vous comprenez pourquoi c'est resté un sacrement potentiel. Nous avons célébré la Sainte Cène, nous avons obéi à Jésus pour baptiser les nations, en revanche, pour se laver les pieds les uns les autres. Voilà. Exactement la même structure de commandement pour indiquer un sacrement. Mais le problème n'est pas là. Vous voyez bien que cette problématique du plus grand et du premier a été réduite à néant par Jésus en disant Moi, je suis grand et je vous lave les pieds. On comprend donc. C'est toutes ces citations, c'est pour faire passer le message que voilà donc un problème bien signifié dans les évangiles. Et évidemment, quand je dis dans les évangiles, mais c'est aussi qu'il est bien signifié, important dans les communautés qui étaient les destinataires de ces écrits qui s'appellent les évangiles, bien des années après la vie de Jésus. Et on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui. Dans notre récit du jour, après que les deux frères, là cette fois sans leur maman, après que les deux frères ont exprimé leurs vœux, Jésus rétorque immédiatement. Il rétorque « Vous ne savez pas ce que vous demandez ». Imaginez que quelqu'un vous pose une question et que vous lui répondiez ça. « Vous ne savez pas ce que vous demandez ». Ce qui fait tout de suite penser pour un interprète habitué à la Bible, à la fameuse phrase de Jésus sur sa croix, dans Luc, au chapitre 23, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le verbe grec, en effet, ici employé dans Luc, signifie aussi bien « voir » que « savoir ». C'est-à-dire qu'il désigne non pas une simple connaissance, mais une véritable perception mentale, bien au-delà d'un savoir rationnel qu'on peut écrire, par exemple. Jésus leur signifie donc, en fait, qu'ils sont aveugles ou aveuglés. Vous ne voyez pas. Et les disciples, s'enfonçant dans leur cécité, après que Jésus leur a demandé à son tour s'ils sont capables, en substance, de subir les épreuves qu'il devra subir, pouvez-vous boire la coupe, etc., pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé, après qu'il leur demande s'ils sont capables, en substance, de subir les épreuves qu'il va subir, nos deux disciples répondent effrontément « Nous le pouvons ». À ce moment-là du récit, notre interprète, qui devient un personnage de ses prédications, saisit bien qu'il s'agit ici d'une attirance vers le pouvoir et vers la grandeur et la primauté que ce pouvoir est censé conférer. Mais c'est aussi dans le récit un point de bascule vers la suggestion d'une éthique qui va plus loin que la simple dénonciation du pouvoir, qui est assez fréquente dans la Bible, évidemment. Jésus leur dit, vous savez ou vous voyez que ceux dont on pense qu'ils gouvernent les nations les mettent en esclavage, les asservissent, les tyrannisent, on peut traduire de toutes les façons. Le sous-entendu ici, quand il leur dit ça, c'est, là, vous êtes bien capable de le percevoir, ce qui se passe dans ces phénomènes de grandeur, de volonté de grandeur et de primauté. Vous le voyez, ça tyrannise. Ça, vous le voyez, n'est-ce pas? Voilà. Et l'assemblée des disciples, et bien entendu l'Église qui va suivre, ne devra pas devenir un lieu où s'exercera un tel fonctionnement, bien entendu. Mais, et c'est là un peu la novation de ce type de texte, elle ne sera pas non plus le lieu où l'on va refouler cette volonté ou ce désir de pouvoir. Car l'Église doit pouvoir. Sinon, elle n'est rien si elle ne fait rien, si elle ne peut rien faire, si elle est juste là à être. Mais cette volonté-là, naturelle, devra être réorientée vers le service de tous et avec deux échelons. Celui qui voudra être grand sera le serviteur de tous, et celui qui voudra, donc c'est pas obligatoire, hein, qui voudra être le premier sera l'esclave de tous. Le problème n'est donc plus le pouvoir, la grandeur ou la primauté, toute chose finalement assez respectable. Mais la volonté de ces privilèges, quand cette volonté n'aspire qu'à satisfaire, est donc illusoirement sa propre personne dans un mépris du bien commun. Alors, pour conclure, ou pour finir, on va dire pour ouvrir cette prédication, je me suis un peu attardé sur le mot « rançon » qui est à la fin de notre texte, car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors le mot « rançon », c'est la traduction d'un mot grec, évidemment. En grec, c'est « lutron », et ça vient d'un autre verbe grec qui est « luo », ça nous est égal, mais qui signifie « délier », « enlever les liens ». Donc on va s'apercevoir ici que le pouvoir du Fils de l'homme évoqué dans ce texte, qu'il n'est pas simplement, comme l'est une rançon, un dépôt en échange d'une restitution, mais qu'il peut une action bienfaisante, car défaisante, de liens qui empêchent de vivre. Alors, quels sont ces liens ou ces chaînes? On en voit dans notre texte les liens qui enserrent des disciples et leur mère, possédés par ce qu'on appelle leur hubris, c'est-à-dire une confiance en soi totalement exagérée. Ainsi, les chrétiens qui ont mélangé les prophéties du Fils de l'homme évoquées par Jésus et la figure du Christ, les chrétiens n'ont pas à rechigner devant un travail de libération de leurs entraves toxiques pour eux et pour leur entourage quand ils vont un jour s'apercevoir que ces liens invisibles, c'est le problème de ces liens, c'est comme les démons qui circulent dans la Bible. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Ces liens invisibles sont autre chose qu'eux-mêmes. C'est la première des choses qu'il faudra constater. Mais il faut aussi remarquer que lors de la guérison d'un paralytique, même verbe, paralytikos, c'est-à-dire de celui qui est délié de sa moitié, donc semi-paralysé, le pouvoir est ici de relier cette personne pour qu'elle redevienne intégrée à elle-même. Si bien que l'on pourrait penser qu'il ne suffit pas d'être délié des entraves toxiques. Est-ce que finalement on peut proposer n'importe quel guérisseur, charlatan ou médecin respectable, ou soi-même, mais qu'il faut aussi se relier à ce qui peut désormais nous maintenir. Par exemple, l'amour des prochains et de Dieu, pour éviter de vivre dans la suspension, le déséquilibre ou finalement de chuter. Amen.